On est heureux de se retrouver dans ce lieu. Si vous venez pour la première fois, soyez les bienvenus. On est vraiment heureux de vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va ouvrir nos Bibles. On va commencer par un texte qui est connu. C'est le Sermon sur la montagne. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. On va parler de quelque chose qui est assez simple ce soir. Mais comme je le dis souvent, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour nous faire du bien. Des fois, il y a des choses qui sont simples, mais qui font du bien à notre cœur quand on se rappelle ces choses-là. De toute manière, la parole de Dieu, elle est puissante. Et nous croyons que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de faire du bien, de transformer les vies. Et c'est ce que nous allons voir encore ce soir. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, et si on lit à partir du verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Ce sermon, vraiment, on peut le voir de deux manières. On peut voir sur plein de règles qui sont pour nous à appliquer, mais on peut aussi voir dans ce sermon des choses qui concernent Dieu. C'est Jésus-Christ qui a parlé d'un rapport entre le chrétien et son Dieu. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, et au final dans tout le sermon, chapitres 5, 6 et 7, on voit que Jésus va appeler Dieu très souvent le Père. Le Père. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle ce soir. Dieu est un Père. C'est un Père. Souvent, Jésus, quand il priera, même quand il va enseigner à prier, il va dire, quand vous vous adressez à Dieu, dites « Notre Père, notre Père ». Alors, je vais poser une question. Qui est papa? Qui a eu un père? Bon, là, normalement, tout le monde va lever la main. On a tous eu un père. Un père, c'est qui? Le Père, c'est celui qui nous donne la vie. On a besoin d'un Père et d'une Mère. Mais sans un Père, il n'y a pas de vie. Le Père, c'est celui qui nous a donné quelque chose. On a tous hérité quelque chose de nos parents, vous êtes d'accord? Certains ont hérité la voix de leur père, certains ont hérité, de la couleur de peau, d'autres ont hérité de caractère, etc. On a tous hérité quelque chose de notre Père. Le Père, c'est celui qui transmet quelque chose, vous êtes d'accord? Vous avez tous reçu quelque chose de votre Père. Des fois, on voit des enfants, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau au père ou à la mère, etc. Ils héritent de traits de caractère. Vous êtes d'accord avec ça? Un père, c'est celui qui nous transmet des choses. On a tous eu un père, et puis certains d'entre nous peuvent être des pères, avoir transmis quelque chose. Et vous savez, sur la terre, il y a différents types de pères. Il y a des bons pères. Je ne sais pas si le père que vous avez eu a été quelqu'un de bon. Mais il y a aussi des mauvais pères. Il y a des bons pères, c'est certains qui font du bien à leurs enfants, qui vont agir de manière à dans l'intérêt de l'enfant. Et puis il y en a d'autres qui sont des mauvais pères et qui vont faire du mal à l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Sur la terre, c'est comme ça. Mais la Bible nous dit, et Jésus nous dit, que Dieu est un père. Mais il n'est pas un père comme ici-bas sur terre. Vous savez, sur terre, tous les hommes sont pécheurs, donc personne n'est parfait. Et même si quelqu'un avait eu le meilleur père au monde ici-bas, il ne serait quand même pas parfait. Vous êtes d'accord? Mais Dieu est un Père céleste. Et on voit plusieurs choses dans la Bible. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à Dieu? Par exemple, si on va au chapitre 7, on tourne une page, au verset 11, il est dit « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» La première chose que l'on voit, c'est que Dieu est un Père qui est bon. Ça veut dire qu'il veut faire du bien. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous faire du bien? Chacun d'entre vous, il veut à tous vous faire du bien, parce qu'il est bon. Ce texte nous dit que si des parents méchants peuvent donner de bonnes choses à ses enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon va donner de bonnes choses? Dieu est un Dieu qui est bon. Si on retourne au chapitre 6 et qu'on regarde le verset 30, il est écrit, en parlant de la nourriture et du vêtement, verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » On voit que Dieu est bon, mais on voit aussi que Dieu pourvoit. Dieu répond aux besoins. Et on a tous des besoins. Est-ce que vous avez des besoins? On peut avoir des besoins matériels. Certains ont besoin d'argent, d'autres ont besoin du vêtement, d'autres ont besoin de nourriture. Mais on peut aussi avoir des besoins dans le cœur. Vous savez, à un moment, Jésus va rencontrer une femme samaritaine qui avait eu 5 maris. Elle avait besoin de quoi, cette femme? Elle avait besoin d'amour. Des fois, on a besoin de paix. Des fois, on a besoin de joie. Des fois, on a besoin de consolation. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et quel que soit le besoin que l'on a, Dieu veut y répondre. Oui, Dieu est bon, mais Dieu pourvoit aux besoins. Comme un père pourvoit aux besoins de son enfant, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Si vous voyez votre enfant qui a besoin de quelque chose, est-ce que vous allez le laisser dans le besoin ou est-ce que vous allez donner ce dont il a besoin? Vous allez le faire. Ben Dieu, c'est pareil. Quand il voit que ses enfants sont dans le besoin, il leur accorde ce dont ils ont besoin. On voit, on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Il nous est dit qu'il est là dans le lieu secret. Dieu est un Dieu qui est présent. Il est là. Il est là. Et vous savez, peut-être sur cette terre, vous avez eu des parents qui n'étaient pas là, qui étaient absents. Il n'y avait pas sa présence avec vous. Ben Dieu n'est pas un père qui est comme ça. Dieu est un Dieu qui, pour ses enfants, est présent. Et même quand un de ses enfants ferme la porte de sa chambre et s'isole, Dieu est là. Jésus-Christ a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a promis à ses disciples. Si on tourne encore une page, on va dans Matthieu chapitre 5, dans le même sermon, au verset 43. Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » On voit que Dieu est un Père qui aime. Il aime. Il aime ses enfants, et il aime même ses ennemis. Lorsque l'on regarde à Jésus, il nous est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'a fait Jésus ? Lorsqu'il y avait des gens qui ne l'aimaient pas et qui le crucifiaient, il a dit « pardonne-leur ». Dieu est un Dieu qui aime. Vous connaissez ce verset dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ». Dieu est un Père qui aime ses enfants. Il n'est pas un Père qui n'aime pas. Il est un Père qui aime. On l'a vu, Dieu aussi, dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Dieu est un Dieu qui pardonne. Ça aussi, c'est une réalité. C'est un Père qui pardonne. Dans, pareil, la prière du Notre Père, c'est écrit « Délivre-nous du malin ». Dieu, c'est un Dieu qui protège ses enfants. Et vous savez, quand un enfant est en danger, imaginez, vous avez un enfant, ou vous en avez vraiment, il est en danger, il y a quelqu'un qui va l'attaquer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ah ben, je ne sais pas, je pense qu'on court à toute vitesse et on dégomme la personne qui va essayer de toucher à l'enfant. Non ? Enfin, je ne sais pas. On va protéger. Mais est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a fait en venant à la croix ? Il nous est dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a vaincu l'ennemi. On voit qu'à la croix, Dieu a combattu un combat qu'il n'était pas obligé de combattre. S'il l'a fait, c'est pour nous. Vous êtes d'accord que Dieu a toujours été supérieur à l'ennemi. Mais s'il est venu en tant qu'homme, c'est pour vaincre en tant qu'homme l'ennemi. C'est pour nous apporter à nous la victoire. Dieu est un Dieu qui protège. Qui protège. On a aussi cette image du berger. Vous savez, à un moment, quand David va parler de... avant d'aller combattre Goliath, David va dire à Saül, mais lorsqu'un loup venait et agrippait la brebis, je courais, je frappais le loup jusqu'à ce qu'elle lâche. Vous savez, ça c'est le berger. C'est un peu ce que Dieu a fait. Il a accouru vers nous et il a frappé l'ennemi jusqu'à ce qu'il lâche. C'est merveilleux. Dieu est un Père qui protège. Mais pas seulement. Dieu est aussi un Père qui corrige ses enfants. Un moment dans la Bible, il est écrit dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 12 « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et oui, quand on aime un enfant, on l'éduque. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec ses enfants. Il nous éduque. Un moment, si vous voulez, on ne va pas le lire ce soir, mais vous pourrez chercher chez vous dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 12. On voit qu'il est même dit que si on n'a pas part à la correction, on est des enfants illégitimes. Vous savez, si on est enfant du Seigneur, que va faire Dieu ? Eh bien, il va nous éduquer. Il va nous éduquer. Est-ce que vous avez déjà pris des fessées ? C'est pas souvent parce que les parents nous aiment qu'il en donne. Après, il y a des parents qui le font parce qu'ils n'aiment pas, ça c'est autre chose, parce qu'ils sont en colère. Mais quand on veut le bien de l'enfant, des fois on le corrige. Et c'est normal, parce qu'on l'aime, et parce qu'on veut que plus tard, il ait une vie qui soit juste et qui soit droite. Et on voit au final, on va s'arrêter là, mais toutes les caractéristiques du père, on voit que c'est aussi un père qui soigne. Eh oui, quand l'enfant est en besoin, il va le soigner. On voit que c'est un père qui rassure, c'est un père qui écoute, c'est même un père qui souffre avec nous. Au final, Dieu, c'est un père qui est merveilleux. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Dieu est votre père ? Parce que oui, Dieu est un père. Mais la question, c'est, est-ce que je suis son enfant ? Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que tous les hommes sont enfants de Dieu ? Est-ce que tous les hommes sont fils de Dieu ? En tout cas, dans la Bible, il y avait des gens, des religieux, qui, eux, pensaient être fils de Dieu. Et regardez ce que va leur dire Jésus. Dans Jean, au chapitre 8... Et au verset 39, c'est les pharisiens, ils vont répondre à Jésus, donc Jean chapitre 8, verset 39, ils lui répondirent, « Notre père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Et lui dire, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. On voit qu'il y avait des gens qui étaient religieux, et eux, ils disaient qu'ils avaient pour père Dieu. Mais Jésus va dire, non, si Dieu était votre père, vous feriez les œuvres de votre père. À un moment, ils vont dire, nous, notre père, c'est Abraham. Mais Jésus va dire, mais Abraham, il était pour Dieu. Vous, vous ne l'êtes pas. Donc, ce n'est pas votre père. Ils vont dire, mais on n'est pas des enfants illégitimes. On a Dieu pour père. Et Jésus va dire, non. Parce que si vous aviez Dieu pour père, vous feriez comme votre père. Tout à l'heure, on a vu qu'un enfant, c'est celui qui a des caractéristiques du père. Et vous savez, ce n'est pas parce que je dis je suis chrétien que Dieu est mon père. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a un autre texte dans la première épître de Jean. Ne le cherchez pas, je vais vous le lire. Au chapitre 3 et au verset 7, il est écrit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire est fils de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » La Bible, elle est claire. Tout comme un enfant a des traits de caractère de son père, tout comme un enfant hérite de son père certaines choses, celui qui pratique le péché a pour père le diable, c'est-à-dire celui qui aime pécher, qui a choisi le péché, qui a choisi de mentir, qui a choisi de voler, qui a choisi de ne pas honorer ses parents, qui a choisi de tromper, qui a choisi toutes ces choses-là. Même si cette personne disait qu'elle était fils de Dieu par ses œuvres, elle prouve qu'elle ne l'est pas. Mais quelqu'un qui choisit, qui est juste comme Dieu est juste, qui pratique la justice, qui pratique le bien, quelqu'un qui pardonne, on l'a lu tout à l'heure, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un qui résiste au diable, lui, c'est un enfant de Dieu. Alors, est-ce que, parce que je vais me mettre à obéir, je vais devenir enfant de Dieu? Non. Parce que je suis enfant de Dieu, je vais obéir. Et nos œuvres sont la preuve de ce qu'il y a dans notre cœur. Si le cœur a été changé, si je suis un enfant de Dieu, alors je vais faire ce que fait un enfant de Dieu. Si je suis un enfant du diable, je vais pratiquer comme le diable le péché. C'est clair ou pas? C'est pas compliqué. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. C'est la manière dont une personne va agir. Parce que lorsque je regarde comment quelqu'un agit, je peux savoir qui est son père. Pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Vous avez vu, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, et plus loin, celui qui pratique le péché est du diable. On a le choix. On a le choix. Alors la question à se poser, c'est, mais comment faire pour devenir fils de Dieu ? Au final, si on regarde notre vie, si on regarde ce que l'on fait, on peut savoir si je suis de Dieu ou si je suis du diable. Si je fais le mal, j'aime le mal, je pratique le mal, même si vous dites que vous êtes chrétien, vous irez en enfer. Si par contre je pratique la justice et je fais la justice, alors c'est la preuve que dans mon cœur il y a quelque chose qui a changé et que je suis devenu fils de Dieu. Alors la question à se poser, mais comment faire pour devenir fils de Dieu ? Est-ce que ça vous intéresse ? Eh bien ça c'est facile, on peut le lire dans... Enfin c'est facile. C'est écrit dans l'évangile de Jean. C'est dans un des textes qui est les plus connus. Dans Jean au chapitre 3. Il est dit au verset 3, c'est un pharisien justement qui va venir interroger Jésus, et Jésus va lui dire, Jean chapitre 3, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » etc. On voit que Jésus va dire qu'un homme doit naître de nouveau. Pour être un enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et c'est vrai qu'un homme, ça fait un homme. Mais un Dieu, ça fait un fils de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc pour être enfant de Dieu, il faut recevoir la vie. Ça veut dire qu'on ne l'a pas en nous-mêmes. De base, quand on naît, la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de la transgression d'Adam, le péché il s'est transmis à l'homme. Le premier homme est devenu pécheur et ses enfants, ça a fait quoi ? Un pécheur, ça fait un pécheur. Et vice-versa. Et à chaque fois qu'un homme engendre un homme, c'est un pécheur. Mais Dieu, dans son amour, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il reçoive la vie, qu'il naisse de nouveau. Et quel que soit le péché dans lequel on est, quelle que soit la vie mauvaise que l'on ait, le cœur mauvais que l'on a, qui produit des mauvaises actions, on peut recevoir la vie et naître de nouveau. Et au final, quelle que soit la vie passée, quel que soit le mal que l'on a fait, on peut être pardonné par Dieu, mais on peut aussi recevoir un cœur nouveau. On peut naître d'en haut, recevoir la vie qui vient de Dieu et que Dieu donne. Et c'est que à partir du moment où j'ai reçu la vie de Dieu, qu'alors je peux dire que je suis enfant de Dieu. Et lorsque je reçois la vie de Dieu dans mon cœur, alors ce que je fais change. Mais si ce que je fais ne change pas, c'est que je n'ai pas reçu la vie. Alors on pourrait se dire, mais comment elle se reçoit la vie ? Eh bien hop, on tourne une page, Jean chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, donc dans la parole de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. » La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il nous est parlé de Jésus. De Jésus qui est la parole qui est venue dans le monde. Il nous est dit qu'elle est venue chez les siens, chez les juifs, mais les juifs ne l'ont pas reçue. Mais voici ce qui est écrit au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus. Croire en son nom, c'est quoi ? C'est croire en qui il est, le Fils de Dieu. Mais c'est aussi croire en ce qu'il a fait, qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, à la croix. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc si on résume, tous ceux qui la reçoivent, tous ceux qui croient, deviennent enfants de Dieu, et ils sont nés, non pas des hommes, mais de Dieu. Comment recevoir la vie ? Comment devenir chrétien ? En croyant en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Parce que si nous étions loin de Dieu, si nous méritons la mort, c'est à cause du péché qu'il y a dans notre cœur. Mais Jésus est venu et il est mort pour le péché. Et au final, toute la condamnation qui me revenait, toute la culpabilité que j'avais, toute la punition que je devais recevoir, c'est lui qui l'a reçue à la croix pour que moi je sois épargné. C'est lui qui a été puni, brisé, frappé par Dieu sur une croix pour que moi je puisse être libéré. Et bien plus que cela, pour que je puisse recevoir un cœur nouveau. Au final, Dieu nous donne la vie éternelle au travers de ce qu'il a fait à la croix en Jésus-Christ, et la foi, c'est recevoir ce que Dieu a fait pour moi. Dieu vous donne la vie, mais la question c'est, est-ce que je veux la recevoir? Et au final, on a tous un choix. C'est pas comme les enfants. Les enfants, ils n'ont pas choisi de naître. C'est les parents qui ont choisi. Mais avec Dieu, il nous est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et au final, on a tous un choix à faire. Soit je reste dans le péché, soit je reste avec mon cœur qui est mauvais, soit je peux recevoir le cœur nouveau que Dieu veut me donner. Et au final, on a tous le choix. Le choix de croire en ce que Jésus a fait pour nous. Et on voit au final, même dans la Bible, on va finir par ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on voit une parabole. On voit même un moment, quelqu'un qui était fils de Dieu, qui était fils, et qui va s'éloigner. Et au final, on voit vraiment la dégringolade d'une personne qui était fils de Dieu et qui va retourner dans ce qu'il était. Par exemple, donc c'est dans Jean chapitre 15, verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Donc c'était ses enfants. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est Luc chapitre 15, verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vous voyez, Dieu laisse libre. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Vous voyez, il va s'éloigner du père. Il s'en va. Il y avait la maison, il y avait le père, il y avait l'église, il y avait le fils qui était auprès de son père. Et il va partir loin de lui. Pourquoi ? Parce que ce qui importait à cet enfant, ce n'était pas son père. Ce qui importait à cet enfant, c'était la richesse. C'était la bénédiction. Et vous savez, si on s'approche de Dieu que pour la bénédiction, un jour, on aura envie de dépenser tout ça. Au final, le fils, il ne pensait pas à son père. Le fils, il pensait à lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vivre pour lui-même. Il va prendre une partie du butin, de l'héritage, et il va partir loin du père pour vivre sa propre vie. Peu de jours après, donc le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Eh oui, tout ce qu'il avait, tout ce que Dieu lui donnait, il a tout perdu. Il a tout dissipé et il commence à se trouver dans le besoin. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus dans la présence du Dieu qui pourvoit. Il est seul dans le désert et il n'a personne pour l'aider dans ses besoins. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il va se rendre au service de quelqu'un. Et vous savez, on est toujours serviteur de quelqu'un. Il était serviteur de son père, sauf que c'était son père. Là, il va se retrouver serviteur d'un homme qui va l'envoyer faire quelque chose d'impur. Et au final, on sert toujours quelqu'un. Si ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Et combien d'enfants de Dieu se sont éloignés. Et au début, ça allait. Mais après, ils se sont retrouvés au service de choses qu'avant, ils n'auraient jamais cru qu'ils feraient. Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. On voit un fils qui était dans la maison du père. Un fils qui mangeait les mets du père. Qui était avec la famille du père. Qui servait le père. Se retrouver à vouloir manger ce que mangent les cochons et on ne lui donne même pas. Ben c'est ce qui se passe quand on quitte, on s'éloigne de Dieu. Mais regardez ce qu'il va faire, étant rentré en lui-même. Et il y a un moment quand on dégringole, on a toujours cette possibilité de rentrer en soi-même. Il dit, mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous avez vu ? Il se dit, bon, je vais revenir vers lui, mais je vais revenir en tant qu'esclave. Au moins, j'aurai de quoi manger. Je vais lui demander pardon et puis il va me traiter comme un de ses ouvriers. Et au final, je vais travailler pour lui, et puis parce que je vais travailler pour lui, parce que je vais faire des œuvres, alors il va me bénir. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voyez le cœur du père. Le père, il n'en avait rien à faire de l'argent qui a été dépensé. Le père, il y avait une chose qui l'intéressait. C'était son fils. Et pour Dieu, ce qui a de la valeur, c'est oui, il bénit l'enfant. Mais ce qui a de la valeur pour Dieu, c'était son fils. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est son enfant qui s'éloigne. Et vous savez, Dieu est le Dieu qui laisse les 99 brebis et qui va chercher celle qui est perdue. Et si vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous revenez à lui, Dieu ne vous traitera pas comme un mercenaire. Dieu ne vous demandera pas de faire des œuvres pour mériter. Dieu courra vers vous et vous serrera dans les bras. Parce que Dieu est un Dieu qui, quand on se repent, quand on revient à lui, il est ému de compassion. Il est plein de compassion. Est-ce qu'il va lui parler de ce qu'il a fait ? Non. Est-ce qu'il va lui dire « Ah, ben, c'est pas bien ce que tu as fait, donc tu vas travailler 10 ans pour rembourser ce que tu m'as pris ?» Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rien lui dire. C'est la miséricorde de Dieu. Et même, il va faire plus que rien lui dire et que lui pardonner. Il va dire, mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Pas une robe quelconque, la plus belle. « Et revêtez-le. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. » On voit que plus que simplement pardonner, il va lui donner encore ce qu'il avait perdu. Ben ça, c'est vraiment l'image de ce que Dieu est pour un enfant qui revient à lui. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Eh oui, il y a plus de bonheur, de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de la repentance. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il est Dieu. Et peut-être vous vous êtes éloigné de Dieu, mais ce qui importe à Dieu, c'est vous. Et ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend, c'est que vous, vous fassiez ce choix de revenir à lui. Mais si on revient à lui, alors le Père pardonne et il nous donne ce que l'on ne mérite pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Un dernier texte, dans Jérémie au chapitre 31, je vais vous le lire. À un moment, il y a une partie d'Israël, Éphraïm, qui s'est éloigné de Dieu. Et à un moment, Éphraïm va vivre ce qu'a vécu ce fils prodigue. Il va dire, c'est Dieu qui parle, « J'entends Éphraïm qui se lamente. » Tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Voilà ce qu'il va dire. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, la repentance. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Et là, c'est Dieu qui répond. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un fils qui fait mes délices? C'est Dieu qui pose une question. Mais est-ce que c'est mon fils chéri qui fait mes délices? Pourtant, il a fait n'importe quoi. Pourtant, il n'a pas arrêté de pécher, il s'est éloigné de Dieu. Il va dire, mais est-ce que c'est mon fils qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. On voit vraiment Dieu qui, quand on revient, quand on se repent, il a pitié, il a compassion et il accueille. Je repose la question, est-ce que Dieu est votre Père ? S'il est votre Père, vous n'avez rien à craindre. Il vous aime, il prendra soin de vous, il vous protégera, il pourvoira à vos besoins, il pardonnera, il relèvera, il guérira, il fera toutes ces choses. Et s'il n'est pas votre Père, eh bien, tout simplement, choisissez d'être son enfant. Renoncez au péché et choisissez la vie éternelle. Ce soir, on a tous le choix. On va incliner nos têtes. Et au final, je crois que ce soir, c'est un rendez-vous avec Dieu. Je crois que la voix du Père crie encore une fois. et qu'il crie à ses enfants qui sont encore, qui ne sont pas dans sa présence, qui se sont éloignés, de revenir. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un dernier chant. Je ne sais pas s'il y en a un qui est prévu. Oui. On va prendre un dernier chant. Et pendant ce chant, ça peut être l'occasion pour vous de rentrer en vous-même. Peut-être que vous, c'est la dégringolade, vous descendez, vous êtes arrivé à un point où vous auriez jamais imaginé que vous seriez descendu à ce niveau-là. Mais Dieu vous appelle, et encore ce soir, vous avez la possibilité de revenir à lui. Mais sachez bien que si vous revenez, il ne vous traitera pas comme un esclave, il ne vous traitera pas comme un ouvrier, où il va falloir faire des œuvres, il vous traitera comme son fils chéri, comme celui qu'il aime. Et pour que vous puissiez revenir, il a donné sa vie à la croix pour vous. Alors pendant ce moment, c'est l'occasion de rentrer en soi-même et de prendre position, et d'arrêter de descendre, mais de revenir au Père. Et comme on l'a vu, lorsqu'on fait volte-face, lorsqu'on se repent et qu'on revient dans la direction de Dieu, au final, c'est Dieu qui court vers nous. Que son nom soit béni. Amen.